Donc, je vais passer la parole à Smaël Boudia, qui est chargé d'études documentaires à la bibliothèque, qui travaille avec Emmanuel Royon, qui va nous parler dans les collections de la SNHF, de tout ce qui concerne les jardins ouvriers à partir des revues qui sont conservées dans les bibliothèques.
Merci. Voilà, donc Smaël Boudia, je vais vous présenter, donc, comme le dit Luc Ménapas, les collections dans un premier temps. Et ensuite, je vais vous parler de l'évocation en fait, des jardins ouvriers dans le journal des SNHF. Voilà. Pardon ? Vous m'entendez pas ? Bien ? Je vais le rapprocher. Vous m'entendez mieux ? Oui ? Ok, ça marche. Alors, comme je disais, donc, dans un premier temps, je vais vous présenter donc, les collections de la bibliothèque de la SNHF et dans un second temps, ce que j'ai pu trouver, des recherches modestes en ce qui concerne donc, les jardins ouvriers dans le journal de la SNHF. Voilà. Alors, je m'arrête d'abord donc, sur l'histoire de la société. Il faut savoir que cette société a été créée en 1827 par Éricard de Thury, qui est ingénieur en chef de l'école des mines. C'est une société qui change plusieurs fois de nom en 1835, où elle prend le nom de Société Royale d'Horticulture. Ensuite, elle rechange encore de nom et elle se nomme donc Société Centrale d'Horticulture de France. Parallèlement à ça, en 1841, on a une nouvelle société d'horticulture qui se crée, qui prend pour nom donc le Cercle Général d'Horticulture de la Seine, de la même manière. Cette société parallèle, on pourrait dire, prend des noms successifs. En 1842, elle devient donc Cercle Général d'Horticulture et en 1848, elle prend le nom donc de Société Nationale d'Horticulture de la Seine. Alors, en 1854, on a une fusion de ces deux sociétés. Elle prend le nom de Société Impériale et Centrale de France elle change de nom encore successivement. C'est une habitude apparemment. Et en 1885, elle prend son nom définitif, le nom que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire la Société Nationale d'Horticulture de France. Voilà. Alors, au départ, la société se trouve rue Taranne, c'est pas loin du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Ensuite, elle déménage ici, donc 84 rue de Grenelle. Vous pouvez voir sur la photo, donc, ce qu'on appelle donc, l'hôtel de l'horticulture. Vous avez donc l'ancienne salle des horticulteurs sur laquelle on est actuellement, où on accueillait différents événements comme des bals, des expositions, des conférences, ce genre de choses. Voilà. Alors, concernant la bibliothèque de la SNHF, elle est née au même moment que la société, c'est-à-dire en 1827. Elle est créée donc en 1827, et je vais vous parler donc du fonds de cette bibliothèque. On dispose donc de 1289 titres de périodiques. À l'époque, donc, la société proposait des annales en échange de celles d'autres sociétés. C'est pourquoi un tiers des périodiques est constitué par les bulletins de sociétés correspondantes, principalement du 19e siècle. On a également 10 000 monographies, comme vous pouvez voir donc, avec 4274 monographies anciennes. Alors, c'est un fonds qui aujourd'hui se distingue en trois fonds distincts. On a d'abord la réserve, où il y a des ouvrages du XVIe au XVIIIe siècle. On a également le fonds XIXe siècle. Et ensuite, on a les monographies contemporaines que l'on peut retrouver dans la salle de lecture de la bibliothèque de la SNHF. Ce sont des ouvrages qui sont en libre consultation et qui sont organisés selon un plan de classement spécifique à l'horticulture. On a également 3230 documents qui sont anciens et plutôt contemporains. Ça peut être des thèses, ça peut être des mémoires, ça peut être des articles de périodiques. On a vraiment de tout dans ce fonds de documents. On a également donc 463 catalogues commerciaux. Voilà. Alors je vous parlais de la salle de lecture. La voici. Conserver ces collections et les mettre à la disposition du public, on a été inauguré en 2017 cette salle de lecture avec 10 places pour les lecteurs et également un espace de détente. Alors, concernant le portail documentaire, en 2005 donc, est créé Hortalia, qui regroupe donc le catalogue de nos collections Et en plus de cela, le catalogue des 7 sociétés régionales qui nous sont affiliées, on va dire. En 2012, on a une mise en ligne du catalogue. En 2016, on a une création du site sous WordPress, avec donc une recherche fédérée aussi bien sur le catalogue des collections que sur la bibliothèque numérique. Concernant le catalogue, on a actuellement un catalogue qui est sous une norme de catalogage qui est assez spécifique. Donc on a décidé de passer sur un autre catalogue, en l'occurrence COA, qui possède, on va dire, une norme de catalogage qui est plus conforme à ce qu'on peut trouver dans une bibliothèque, c'est-à-dire on peut cataloguer en Unimark. Voilà. Alors, concernant la bibliothèque numérique, il faut savoir qu'elle a été le début de la numérisation a été fait en 2011. Ce sont surtout des revues du 19e siècle, comme la revue Horticole, le journal de la SNHF, qui va me servir après pour faire mes recherches, et l'Horticulteur universel et d'autres encore que je ne vous cite pas. En 2012, c'est Alina Koto qui en parlait, on signe une convention de pôle associé avec la BNF. Par ce biais, on a pu numériser des monographies du 16e au 18e. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc, on se concentre plutôt sur les ouvrages du 19e, pardon, qui sont la plus grande partie de nos collections. En 2014, on a la création d'un logiciel dédié qui permet de signaler nos collections sur Gallica, d'être moissonné. Actuellement, la collection en ligne référencée, ce sont les photographies, les lettres et les autographes, les revues, les monographies, les portraits sociétaires, les catalogues et les gravures. Alors, pour faire la recherche que je vais vous exposer, je me suis donc servi de la bibliothèque numérique, de la recherche plein texte, qui m'a donc permis de faire cette recherche sur les jardins ouvriers. Voilà. Alors, je l'ai intitulé donc Continuité et rupture des représentations associées aux jardins ouvriers avant et après leur création dans le journal de la SNHF. Je suis désolé, c'est un peu long. Alors, le but de cette recherche donc, a été de percevoir l'évolution, les changements de discours associés aux jardins ouvriers dans le journal de la SNHF. Et exclusivement dans le journal de la SNHF. Il serait peut-être à faire une recherche un peu plus poussée dans d'autres journaux, les comparer, etc. Mais je me suis cantonné, on va dire, au journal de la SNHF. Donc ma recherche a débuté avant la création des jardins ouvriers, c'est-à-dire à la création de la SNHF en 1827. Je me suis donc attaché au discours antérieur aux jardins ouvriers, parce que les discours qui sont nés des jardins ouvriers ne sont pas nés à leur création. On a tout un panel de représentations qui sont nées avant les jardins ouvriers, qui innervent, on va dire, ce discours sur les jardins ouvriers. On a un discours sur la nature, sur le monde ouvrier, sur les fleurs, sur le jardin, qui innerve ce discours. Il m'a semblé donc intéressant de percevoir ce qui pouvait perdurer, ce qui pouvait changer avec les jardins ouvriers dans ces représentations. Voilà. À noter, c'est un point important, à noter que dans le journal de la SNHF, il y a un discours sur les ouvriers et pas un discours des ouvriers. C'est peut-être à regretter, mais la société avait très peu de membres ouvriers. Il y avait surtout des membres qui n'étaient pas ouvriers, qui étaient surtout des jardiniers ou des personnes qui étaient propriétaires. Alors, dès 1831, donc assez tôt, on voit un discours moral qui s'attache aux ouvriers et aux jardins ouvriers, enfin non, aux ouvriers, pardon. Alors, on peut voir que dans l'instruction d'un ouvrier à son fils partant pour un voyage en pays étranger, on peut y lire que lorsque dans un village tu verras beaucoup de cabarets, sois sûr que tu y trouveras peu d'économie, peu de bonheur domestique et beaucoup de fainéants et de mauvais sujets. Si tu ne rencontres pas les paysans au champ dès le lever du soleil, tu es sûr de les rencontrer au cabaret. Donc le cabaret, la lutte contre l'alcoolisme, des choses qui sont assez présentes dans les discours sur les jardins ouvriers, qui seront présentes plus tard, donc 50 ans plus tard, dans les jardins ouvriers, enfin dans le discours sur les jardins ouvriers, on peut voir qu'on le retrouve déjà dans des textes issus du journal de la SNHF en 1831. Ceci, en fait, c'est un moyen d'éloigner, on va dire, les ouvriers des mauvaises influences. À la même période, se dégage un discours assez négatif sur les ouvriers. Alors, toujours dans le journal des SNHF, je lis « L'ouvrier est naturellement imprévoyant. Tant qu'il a de la santé, l'avenir l'occupe peu. » Autrement, sinon en 1835, Il est vrai que quant à l'administration, la classe des ouvriers est dans beaucoup de cas ignorante et négligente à en faire pitié. Donc c'est un discours très négatif, mais parallèlement à cela, on observe, toujours de manière représentative, une influence morale positive provenant de l'agriculture. Alors je lis donc, toujours dans le journal des CNHF, à la même période, hein, l'agriculture est source de la plus saine morale, point de départ inaperçu, mais certain des diverses sciences, qui conduisent l'homme à travers le bonheur et l'aisance jusqu'au plus haut degré de civilisation. On a également un discours très positif sur les jardins, toujours un discours moral. Les jardins produisent un effet physique et moral qu'on ne devrait pas négliger. Et un peu plus tard, sur les fleurs, un discours positif sur les fleurs, l'influence heureuse que la culture des fleurs exerce sur le caractère et la morale des hommes. Voilà. On remarque que ce discours sur les jardins, sur les fleurs, sur l'agriculture, est un discours qui est assez général. On ne parle pas des ouvriers, il s'agirait plus de l'homme en général et de la condition humaine en fait. Dès lors, on peut voir des discours antagonistes entre, d'un côté, un discours négatif sur les ouvriers et un discours positif, comme je disais, sur les fleurs, sur le jardin, etc. Ça constitue un véritable problème pour la société d'horticulture qui essaie d'y trouver des solutions pour ne pas avoir un discours dénigrant sur les ouvriers. Et pour cela, donc, pour donner une représentation positive des ouvriers, il y a les expositions jouent un grand rôle. Et je lis toujours dans le journal des CNHF, l'exposition a pour objet de récompenser les ouvriers de l'horticulture. C'est une nouvelle protestation contre ce prétendu dédain porté par une partie de la société, à entendre la Société nationale d'horticulture de France. C'est la meilleure réponse qu'on puisse faire à la malveillance qui propage ces calomnies funestes. Alors, les expositions permettent donc de tracer un portrait plus positif de l'ouvrier par la voie des récompenses. La SNHF entre dans une voie moralisatrice. Dans cette lignée, elle modifie son règlement en 1852 pour y spécifier l'importance des expositions et des récompenses aux ouvriers. Le travail a une importance extrêmement grande dans cet aspect moral. On peut toujours y lire qu'en 1851, récompenser les longs services des ouvriers et ouvrières de l'horticulture et leur moralité qui résulte de la constance dans leur travail. Ces médailles sont une distinction des plus honorables car elles sont conquises par le travail. De même, l'horticulture moralise l'homme, elle occupe les ouvriers avec un travail matinal, persévérant, continu. Et la preuve, c'est qu'en examinant les textes des cours d'assises, on trouve très peu d'ouvriers horticoles dans ces tristes lieux. On verra que ce discours sur le travail va changer au fur et à mesure du temps et surtout à la création des jardins ouvriers. On note qu'il y a des initiatives relatives aux ouvriers qui sont antérieures à la création des jardins ouvriers ou qui lui sont parallèles. On a notamment les colonies agricoles, donc dans le journal de la SNHF en 1833, donc assez tôt quand même. On voit donc dans les colonies agricoles des ouvriers vivant d'abord du salaire de leur travail devenir bientôt usufruitiers d'une habitation et d'une portion de la terre mise en valeur par eux. On a également, là c'est plus en parallèle avec les jardins ouvriers, on a une société qui s'appelle Floralia, qui est une société hollandaise, où on peut lire, elle permet de répandre le goût de l'horticulture et de l'instruction nécessaire pour l'élevage des plantes et fleurs de fenêtres d'appartement. Quant à l'effet moralisateur de l'œuvre, il est énorme. Et la femme trouve dans la fleur et dans l'embellissement de sa maison par les plantes un moyen de retenir son mari et de l'arracher au cabaret. Donc toujours avec cet aspect moralisateur, avec le moyen de détacher, on va dire, l'ouvrier de l'alcoolisme et donc du cabaret. On a également une troisième alternative, on va dire, au jardin ouvrier. Ce sont les balcons fleuris. Ce sont des concours qui sont donc de balcons fleuris, qui sont très prisés par la bourgeoisie. Ces concours sont dits à répandre dans les ménages d'ouvriers, car dans les ménages d'ouvriers où les plantes sont en faveur, règne l'ordre et la propreté, le cabaret est délaissé. Aussi est-il à souhaiter qu'une propagande active soit faite dans les classes laborieuses. Voilà. On arrive donc à la création des jardins ouvriers. Il est à noter qu'il est intéressant de voir que la première occurrence des jardins ouvriers dans le journal de la SNHF est assez tardive. Il s'agit donc de la création de l'œuvre des jardins ouvriers à Nantes, et cela en 1897. Le premier article concernant les jardins ouvriers paraît en 1898. Il s'agit du foyer jardin ouvrier, Donc je vais vous lire un petit extrait. Les jardins ouvriers sont le garant de la paix sociale, moyen précieux d'accroître les ressources des ménages ouvriers, avec l'immense bienfait d'assainir la vie du travailleur, en offrant un intérêt nouveau et une occupation salubre, en détachant par là du cabaret, en ramenant au contact de la terre et de la nature. Donc là, on a tout ce qui constitue les représentations liées à l'ouvrier, à la nature, et qui sont donc dans cet article. Lié à cet article, on a un petit récapitulatif de l'histoire des jardins ouvriers, avec Félicie Hervieux, qui fonde à Sedan en 1890 l'œuvre de reconstitution de la famille, le père Volpette, qui imite en 1895 Félicie Hervieux, l'abbé Lemire, qui crée les jardins ouvriers dans les bassins miniers du Nord, et également la création de la Ligue du coin de terre et du foyer en 1896. La première visite organisée par la SNHF est organisée donc en 1901, et c'est au jardin ouvrier de Sceaux, dont vous pouvez voir donc dans le journal de la SNHF, il y a un petit plan de ce jardin ouvrier de Sceaux. Le conseil de la SNHF donc nomme une commission qui est composée des membres de la Société nationale d'horticulture de France, avec notamment le vice-président et le secrétaire. Alors, ce jardin ouvrier est créé à l'initiative de M. Renaudin, qui met à disposition, comme vous pouvez le voir ou pas, j'espère qu'on le voit bien, 24 parcelles qui sont donc données aux ouvriers et qui sont données gratuitement aux ouvriers et surtout aux plus grandes familles. Et le reste est réparti par le hasard, en fait. Et donc, ce compte-rendu fait dans le journal de la SNHF est renvoyé à la commission des récompenses. Et la même année, le jardin ouvrier de Sceaux est récompensé donc par un diplôme de grande médaille d'argent. Par la suite, ces visites se multiplieront. On voit apparaître également des brochures destinées aux ouvriers où sont présentées une liste de plantes recommandables pour donc ces jardins ouvriers. Des ouvrages également sont réceptionnés à la bibliothèque de la SNHF. Par exemple, on a l'ouvrage « Les jardins ouvriers du point de vue économique et social ». On a également le prix Joubert de Liberderie, qui est un prix qui récompense les ouvrages liés à l'horticulture. En 1908, on a donc les jardins ouvriers qui sont récompensés d'une médaille de vermeil par ce prix de Joubert de Liberderie. Alors, on voit que les concours sont organisés pour tous les types de jardins et de professions. On a par exemple le jardin de l'horticulteur, le jardin de l'entrepreneur. On a également les jardins de maisons bourgeoises. Mais apparaissent de petit à petit des concours liés aux jardins ouvriers. Et ça, la première occurrence donc arrive en 1909. À cet égard, on a des photos de ces expositions de jardins ouvriers qui sont liées également à des concours. Vous pouvez voir en haut à droite. On peut voir les différentes sociétés de jardins ouvriers qui proposent donc ces expositions. Là, donc, c'est l'exposition d'automne au CERF de Cours-la-Reine en 1909. On voit donc toute une augmentation des publications, des concours, des médailles. On voit une recrudescence de la représentation des jardins ouvriers, surtout à partir de 1909. Et pour moi, cela s'explique par le fait que de 1906 à 1909, il y a une augmentation assez importante du nombre de jardins ouvriers, notamment en région parisienne, où on peut voir qu'en 1906, il y a 100 jardins ouvriers. En 1909, cela passe à 700 jardins ouvriers, donc multiplié par 7, avec 6000 personnes. Ces jardins ouvriers totalisent 15 hectares en tout. Et en grande banlieue, on a donc 1500 jardins. Les jardins ouvriers deviennent également un thème de réflexion assez important et très présent à la SNHF, avec très souvent des questions mises à l'ordre du jour, comme par exemple sous quelle forme les sociétés d'horticulture pourraient aider et encourager les associations de jardins ouvriers. On a également d'autres questions du rôle des sociétés horticoles dans le développement des jardins ouvriers. Tout un tas donc de réflexions qui permettent de mieux comprendre les jardins ouvriers et d'essayer de les mettre en exergue dans le journal de la SNHF. On a également des lois qui sont discutées et qui sont diffusées pour les ouvriers, notamment la loi 1908 relative au crédit accordé pour la petite propriété, la loi également de 1906 sur les habitations à bas marché, donc qui sont directement en lien avec les jardins ouvriers. Donc avec cette augmentation et cette intérêt croissant des jardins ouvriers, on peut voir un changement qui se fait, une inflexion dans la manière de les appréhender. Au niveau du but même de ces jardins, on voit cette inflexion. Il s'agit de moins en moins d'occuper les ouvriers. Au départ, il était vraiment question de leur donner quelque chose à faire pour qu'ils évitent d'aller au cabaret ou de faire des bêtises ou de ne pas aller à la cour d'assises. Et de plus en plus, ces jardins ouvriers constituent un espace de liberté. C'est ce que moi j'ai pu donc percevoir dans le journal de la SMHF. Par exemple, dans un texte de 1909 sur les jardins ouvriers par M. Curé, je peux vous lire ça, c'est vers le travail bien compris qu'il faut les diriger, c'est-à-dire les engager à venir dans leur jardin, plutôt dans un but de plaisir, de délassement, de réunion de famille, que dans un but de labeur nouveau à ajouter à celui que le père de famille vient de quitter. C'est un sport plutôt qu'un labeur. Ils viendront dans leur jardin dans un but de plaisir, de délassement, plutôt que dans un but de véritable travail. On va dire une idée calviniste du travail, le travail pour le travail. On a quelque chose qui... Le travail n'est pas une fin en soi. Il aide à avoir ces espaces de liberté, d'indépendance qu'apporte donc ce jardin ouvrier. J'ai un autre texte donc qui est issu, on va dire, du 7e congrès national des jardins ouvriers et qui est paru en 1930, où il expliquait qu'il existe différents types de jardins ouvriers. Il y a le jardin ouvrier des compagnies minières, des grandes sociétés métallurgiques, et en parallèle à ça, il y a les œuvres dues à l'initiative privée. Alors je vous lis ce qui est marqué sur l'œuvre due à l'initiative privée. Les œuvres à initiative privée ont la préférence de la Ligue car elles donnent une liberté complète. La liberté est aliénée lorsque les terrains sont la propriété de leurs employeurs. Les jardins paraissent alors la suite, le complément de l'usine. Dans les œuvres à initiative privée, au contraire, les ouvriers conservent à l'abri des règlements très libéraux une complète indépendance. Donc, comme je vous le disais, il y a vraiment une volonté de donner plus de liberté aux ouvriers par ces jardins ouvriers. On y voit également une représentation de la famille qui change un peu, alors qu'auparavant, avant donc les jardins ouvriers, on voit surtout un discours sur les ouvriers en eux-mêmes. Ces représentations touchent également toute la famille avec un discours sur les grands-parents, sur les enfants, sur la femme de l'ouvrier. Et chacun y trouve son plaisir et un moyen de se délasser et d'y gagner un peu plus de liberté. Voilà, en conclusion. Merci.
Alors, merci pour cette intervention. Alors, encore une fois, est-ce que ceci vous amène des questions? On va faire passer un micro. Oui.
Oui, bonjour, je suis Jean Vorère, administrateur à la Fédération des Jardins Familiaux. Je voudrais d'abord vous féliciter parce que c'est vraiment un exposé extrêmement intéressant sur... l'évolution des esprits et des mentalités par rapport au jardin ouvrier. C'était vraiment passionnant et je vous en remercie vraiment beaucoup du fond du cœur. Juste un petit détail, mais j'y reviendrai, c'est le fait que dans ces années 1900, ça a été des années de bouillonnement, il y a eu aussi la loi de 1901 sur les associations.
Oui, j'en ai pas
parlé. Et voilà, et on y reviendra, hein, mais je crois que c'est aussi un moment de basculement dans la création des jardins. Je voulais juste
ajouter ça. Vous avez tout à fait raison, oui, tout à fait.
Daniel Lejeune, c'est formidable parce qu'on peut lire les choses de deux manières. On peut les lire en plein ou en creux. En plein, c'est ce que vous avez exposé sur l'histoire des choses. En creux, c'est l'attitude politique, entre guillemets, de la société sous ses différents noms successifs. Oui. Par rapport à des choses qui s'appellent les classes sociales, qui s'appellent le pouvoir, qui s'appellent le capital, etc.
Tout à fait.
Il y a tout un volet qui n'est évidemment pas exposé à travers les annales ou autres de la société, qu'il serait peut-être dans des sociétés partenaires, donc plus de provinces parce que plus proche du terrain, je n'en sais rien, j'ai pas cherché, qui est le côté, on va dire, hygiéniste et paternaliste de l'affaire. Alors en 30, on explique bien la différence qu'il y a entre les jardins ouvriers d'origine d'entreprise et ceux d'origine privée qui sont censés être plus libres et pour cause. Mais les premiers jardins ouvriers, moi, dont j'ai trouvé trace et qui n'emploient pas encore le terme de jardin ouvrier, c'est l'allotissement des parcelles de vie des ouvriers de la Saline d'Arc-et-Senans. Donc on est sous Louis XV. Ça ne va pas très loin, mais enfin, l'intention était là. Et puis ensuite, il y a quand même toute la question des jardins qui sont concédés par les grandes entreprises, qu'elles s'appellent Michelin, qu'elles s'appellent les Houillères du Nord, etc. Et on ne veut pas le dire, mais là, ce n'est pas le cabaret qu'on cherche à éloigner du jardinier, c'est le syndicalisme.
Oui, d'accord.
l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que le cabaret était aussi un lieu de discussion politique.
Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je m'intéresse au jardin ouvrier en tant qu'auteur et artiste, mais je suis vraiment complètement en dehors du monde de la recherche. Et je voulais juste, savoir si vous aviez l'intention de parler aussi de l'influence de l'Église, notamment à cette époque.
J'ai noté, oui, l'influence de l'Église.
Voilà, parce que là, vous parliez du père Volpette, de l'abbé Lemire.
Oui, mais elle est très présente, oui, exactement.
Mais je crois que c'était vraiment une influence
oui, très présente, déterminante. Oui, tout à fait. Oui,
il y aurait une intervention cet après-midi dessus.
Je l'évoquerai en début d'après-midi, hein, toute l'importance de l'Église au début, lors de la mise en place des jardins.
Mais elle est présente aussi dans le journal des SNF Chefs, on en parle assez, assez souvent.
On évoquait, comme ça par la bande, les sociétés locales, régionales, etc. Est-ce que dès le départ, elles sont des émanations de ce qui va devenir la SNHF ou c'est des structures qui sont indépendantes? Et puis, est-ce que vous avez rassemblé tout le fonds disponible? Parce que dans ces sociétés locales, il se passe des choses très intéressantes. Moi, j'ai consulté les annales de la Société impériale d'horticulture de l'Aube. Et donc, il y a Charles Baltet qui est là, et c'est très intéressant. Et aussi, bon, le côté que tout ça s'est concentré sur des notables. Le seul non-notable, c'est un instituteur qui est accueilli, mais c'est parce qu'il est vraiment très méritant. Ah oui.
En fait, j'ai une citation de Charles Baltet, donc, je ne sais plus s'il faudrait que je la retrouve. Et effectivement, oui, les sociétés régionales jouent un grand rôle dans la mise en valeur, on va dire, des jardins ouvriers avec des expositions, des choses comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il faut savoir que oui, dans le journal de la SNHF, en fait, il n'y a pas que les discussions propres à la SNHF, il y a également des extraits de sociétés régionales et d'annales de sociétés régionales. Donc ça rejoint ce que vous dites. Ça montre également le rôle des sociétés régionales dans l'émergence, on va dire, des jardins ouvriers, dans un rôle positif qu'elles peuvent jouer. Voilà.
Merci. Bonjour, Claudine de la SNHF, section AAO. Quelles sont les grandes régions où il y a eu un gros développement de ces jardins ouvriers au tout début? Est-ce que c'est le Nord? Je pense par exemple
dans le Nord, oui, il y a une grosse émanation en région parisienne également. Je ne pourrais pas vous dire exactement. Il faudrait vraiment que je fasse des recherches là-dessus. J'avoue, je me suis vraiment cantonné aux gens de la SNHF. Mais c'est surtout dans le Nord. Les jardins miniers du Nord, par exemple, sont des.
Vous parlez des jardins miniers de France. Est-ce que c'est rattaché à Jardiniers de France?
Est-ce que c'est rattaché à Jardiniers de France?
L'association qui a suivi, je suppose, Jardiniers de France.
Oui, tout à fait.
Qui était point de vue national. Alors, est-ce que c'était régional avant et ensuite national?
Je pense que c'était régional et après national.
Je pense que Béatrice Capdos va évoquer un certain nombre de ces choses-là.